Vous êtes sur RTL.
RTL Midi,
Antoine Cavallero.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. RTL Midi, une demi-heure pour vous informer, pour se retrouver et pour vous guider. Si vous êtes en voiture, drapeau rouge, hissé par bison futé dans les deux sens, et même noir dans le sud, Pierre Collat, est-ce qu'on a passé le pic des bouchons?
Oui, on l'a passé, c'était à midi moins 5, 910 km. La courbe se stabilise, principale difficulté dans la vallée du Rhône et sur la côte méditerranéenne.
Le point complet avec vous dans un instant, et on appellera Valentin Larquier sur une aire d'autoroute entre Toulouse et Narbonne. Un peu de répit pour les pompiers. Les feux en Gironde progressent de façon limitée. C'est la bonne nouvelle du jour et on attend de la pluie dès ce soir. Dans l'actualité également, vive émotion de par le monde. Salman Rushdie, victime d'une violente agression hier aux États-Unis, poignardé à plusieurs reprises. L'auteur des versets sataniques entre la vie et la mort. On n'en sait plus sur le profil du suspect. Un jeune homme de 24 ans. Nous sommes aussi avec un spécialiste de l'Iran. L'écrivain, on le rappelle, était visé par une fatwa décrétée par Téhéran. Et puis le football, Paris reçoit Montpellier, première soirée au Parc des Princes pour Christophe Galtier et le retour de Kylian Mbappé. La météo, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Je le disais, on attend des orages pour ce soir.
Oui, alors en Corse, on en a encore un petit peu. Ça, ce sont ceux d'hier qui vont partir par le sud de l'île, donc dans les prochaines heures. Et puis les orages qu'on attend dans le sud-ouest, ils sont en Espagne à l'heure qu'il est. Ils sont en train d'aborder Madrid, donc ça ne devrait plus tarder. Et donc ça se confirme, on va avoir des orages dans le sud-ouest dans la soirée et surtout au cours de la nuit. Ça pourrait d'ailleurs tomber assez dru et fort avec de la grêle et de brusques rafales de vent entre l'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées et le Limousin. Des pluies orageuses qui vont remonter jusqu'aux portes de la Bretagne. Avant cela, du plein soleil et pour tous les autres, du plein soleil. Jusqu'à ce soir avec des températures encore très élevées aujourd'hui. C'est à Nice qu'il fera le plus frais, 28 degrés cet après-midi, comptez 31 à Nancy, 33 degrés à Lille et Paris, 35 degrés à Lyon, 36 à Montélimar, un gros 37 à Nantes et à Limoges et 38 degrés à Montauban.
Merci Valérie. RTL Midi, le samedi, c'est aussi votre recette de l'été. Pierre Herbulot se lance un défi. Faire aimer la betterave à Valérie Quintin, ce n'est pas une tâche facile.
Non, c'est pas simple.
Ça sera en carpaccio, frais et coloré. Rendez-vous à 1h05.
RTL Midi.
Qui dit week-end du 15 août dit bouchon à rallonge dans le sens des départs comme dans celui des retours. La France repeinte en rouge par bison futé et même en noir le long de la Méditerranée. Pierre Collat, 910 km de bouchons cumulés pour le pic.
Et oui, vous mettez 3h15 de plus pour descendre la vallée du Rhône entre le sud de Lyon et Orange. On le voit sur les caméras trafic, vous roulez au pas au niveau de Valence et de Montélimar. Dans l'autre sens, direction Lyon, c'est chargé aussi. Vous mettez une heure de plus quand temps normal. Plus au sud, dans l'Hérault, ça bloque à hauteur de Agde, sortie 34, gros bouchon. Il faut compter 1h50 de plus sur l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne. Dans l'ouest, sur la 10, si vous nous écoutez sur l'axe Paris-Bordeaux, vous perdez environ une heure entre le péage de Saint-Arnoux et la capitale girondine. Attention à cet accident entre trois véhicules sur voie de gauche. C'est au kilomètre 301, juste après la sortie 28 Futuroscope. Cette sortie 28 est conseillée pour contourner la difficulté. Et puis, sur l'A61, c'est entre Toulouse et Narbonne. Grosse difficulté à cause de travaux. Après Bram, sortie 22 et Carcassonne, sortie 23, vous mettez 1h20 de plus qu'en temps normal.
Et bien justement, on va aller voir comment ça se passe sur cette A61. On retrouve Valentin Larquier entre Toulouse et Narbonne. Vous êtes sur l'aire d'autoroute de Port-Lauragais. C'est la pause déjeuner, c'est le rush dans les boutiques avec l'indémodable sandwich.
Oui, exactement Antoine, qu'il soit triangulaire ou en baguette, ici sur l'aire de repos de Port-Lauragais, il est prévu d'en vendre 3500 d'ici lundi, c'est à peu près 35% de plus qu'en temps normal, et je peux vous dire que j'en vois défiler des vacanciers sandwich en main depuis 11h30, comme par exemple Caroline Fou et leurs enfants qui rentrent de vacances passées à Port-Barcarès.
Alors sandwich fait maison par Nora, la grande fille, et puis sandwich acheté pour la petite parce que elle est un peu difficile.
Vous avez opté pour le panier complet avec le sandwich, la boisson et le dessert.
Oui, pour la petite puce, ouais. Comme ça on s'est dit au moins ça lui fait son petit menu complet, parce que les sandwichs en dur, c'est un peu plus, enfin avec la baguette, c'est un peu plus difficile pour elle de manger. C'est tout ce qu'elle aime, le jambon, la petite boisson, le petit dessert.
C'est la pause casse-croûte pour les enfants. Donc ça leur permet comme ça de reprendre des forces et puis pour nous aussi.
Tout le monde reprendrait des forces avant d'affronter les embouteillages. Et la famille fait partie des 15 000 personnes qui devraient s'arrêter sur l'aire de repos de Port-Lauragais durant ce week-end prolongé.
Valentin Larquier sur l'aire d'autoroute de Port-Lauragais, merci à vous. Sur le front des incendies, un début d'accalmie en Gironde. La progression des flammes est limitée. Elles ont dévoré plus de 7 000 hectares depuis mardi, depuis la reprise du feu dans le secteur de Landiras. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
La vigilance reste de mise, plus de 1000 pompiers toujours mobilisés tout de même, mais ils peuvent donc souffler un peu.
Absolument. D'ailleurs, on sent bien que la tension est un peu redescendue ce matin au poste de commandement. Le feu n'avance plus. Visuellement, ça se traduit par beaucoup moins de fumée ce matin dans l'air qu'il n'y en avait ces dernières heures. Alors, grâce aux renforts français et étrangers, toute la zone est désormais quadrillée. Dès qu'il y a une reprise, elle est traitée dans un très court laps de temps. Mais il ne faut surtout pas s'emballer aujourd'hui, selon la capitaine Stéphanie Martin.
On est sur une situation stabilisée, on reste très vigilant. Hier soir à 20h, il y a eu un feu sur la commune de Sors, à 15 km d'ici, qui a fait une quinzaine d'hectares. Le feu ne progresse plus, mais on est vraiment en vigilance active, et d'autant plus avec ce phénomène orageux qui est prévu pour ce soir. Des Autrichiens arrivent ce matin et les Polonais en milieu d'après-midi ou voire fin de journée.
Voilà, donc les personnes évacuées sont invitées à ne pas rentrer chez elles pour le moment. Actuellement, le génie civil est à l'œuvre. Des arbres sont rasés au bulldozer car il faut éviter une future propagation de l'incendie sur des zones qui seraient encore boisées.
Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Gironde. Les pompiers de Gironde, aidés par leurs confrères européens, mais aussi bientôt par une vingtaine de soldats du feu venus de Polynésie. Ils s'envolent aujourd'hui pour Paris. Marourou leur dit Emmanuel Macron sur Twitter, merci en tahitien. Le sergent Teiva Tetoua Nui est l'un de ses volontaires.
J'ai même hâte d'y être, c'est pour aider nos frères d'armes, pompiers qui luttent en ce moment même. En Gironde, et je vois bien les images dans les infos, ils sont quand même fatigués et tout ça. J'ai hâte d'y être pour les aider, surtout pour la population aussi de Gironde. Ici en Polynésie, on a 80% de secours à personne, que le feu, on n'a vraiment pas beaucoup. C'est une belle expérience pour pouvoir découvrir ce genre de mission. On a confiance, on s'est formé pour. On part avec des supérieurs aussi qui sont là pour nous encadrer. On ne va pas là-bas pour faire le héros, ça ne sert à rien.
Un propos recueilli par Laure Philibert, correspondante RTL à Tahiti, a noté qu'en Bretagne, l'incendie dans la forêt de Brocéliande est en passe d'être maîtrisé. Près de 300 hectares ont été brûlés. Une courte pause et dans un instant, Salman Rushdie, toujours dans un état préoccupant. Les nouvelles ne sont pas bonnes, déclaration de son agent. L'écrivain poignardé à plusieurs reprises hier aux États-Unis. On en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur présumé. A tout de suite.
RTL Midi avec Antoine Cavallero. RTL Midi avec Antoine Cavallero.
RTL Midi 40, symbole de la liberté d'expression visée par une fatwa iranienne depuis plus de 30 ans. Salman Rushdie se trouve entre la vie et la mort. L'auteur des versets sataniques placé sous respirateur artificiel, son état de santé préoccupant. L'écrivain britannique poignardé au cou et à l'abdomen, c'était hier soir dans l'état de New York. Un suspect a été arrêté dans la foulée. Julie Brault, bonjour.
Bonjour.
On en sait un peu plus sur le profil de cet homme de 24 ans.
Oui, la police locale l'a identifié.
Suspect has been identified as Hadi Matar.
Hadi Matar, jeune homme apparemment sans antécédent, né en Californie. Il serait d'origine chiite libanaise. Récemment, il avait déménagé dans le New Jersey, état voisin de New York où habitait Salman Rushdie. Lors de son arrestation hier, Hadi Matar avait un faux permis de conduire sous lui, sous le nom de Hassan Mughniya, une référence au nom de l'ancien responsable militaire du mouvement islamiste Hezbollah. Depuis hier, les autorités fouillent le téléphone portable et les réseaux sociaux du suspect. Réseaux sur lesquels Hadi Matar affichait des signes de sympathie envers le gouvernement iranien et les gardiens de la révolution. Sur Facebook notamment, sa photo de profil affichait la figure de l'ayatollah Khomeini, l'homme qui a lancé la fatwa contre Salman Rushdie. Alors si aucun lien entre le suspect et Téhéran n'est encore établi, la presse conservatrice iranienne, elle, a salué l'assaillant ce matin. Et c'est désormais le FBI qui est chargé de l'enquête pour déterminer le motif exact de l'attaque au couteau sur Salman Rushdie.
Merci Julie Brault. Et nous accueillons à présent Thierry Coville, chercheur spécialiste de l'Iran. Bonjour.
Oui, bonjour.
Salman Rushdie était donc visé depuis 1989 par une fatwa émise par le dirigeant iranien de l'époque, l'ayatollah Khomeini, ciblé pour son livre « Les versets sataniques » jugé blasphématoire. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler le contexte, pourquoi Téhéran avait appelé à l'assassinat de l'écrivain ?
Oui, alors moi je pense que c'est surtout des raisons géopolitiques. L'Iran est en position de faiblesse à l'époque. L'ayatollah Khomeini vient d'accepter la fin de la guerre avec l'Irak, qui a duré 8 ans, alors que lui voulait continuer la guerre jusqu'au bout. Le pays est épuisé économiquement. Il faut voir aussi un élément important, hein, rappeler aux auditeurs, c'est que l'Iran est à 90% chiite. Les chiites sont une minorité dans l'islam, parmi les musulmans. Je crois qu'ils doivent représenter 10% des musulmans. Et, mais l'Iran, il y a une idée de suprématie régionale. Donc ils veulent toujours être le leader du monde musulman et en faire plus, notamment que les monarchies sunnites qui jugent trop complaisantes vis-à-vis de l'Occident. Donc ils veulent toujours en faire plus. Donc c'est pour ça, à mon avis, pour reprendre le leadership du monde musulman, que l'ayatollah Khomeini lance cette fatwa en 1989.
Alors pour l'instant, aucune réaction officielle de la part de Téhéran, mais la presse conservatrice iranienne félicite l'assaillant. Le journal d'État estime que le coup du diable a été frappé, hein, je cite. Que vous inspire ces unes de journaux, Thierry Coil?
Alors, il faut également expliquer, c'est qu'en Iran, vous avez effectivement deux camps, on va dire, pour simplifier. Le journal où vous faites référence, c'est Kehan. Uh-huh. C'est lu par personne.
C'est le journal très conservateur.
Voilà, c'est le plus radical des radicaux. Donc, ils ont toujours des positions les plus radicales possibles. Il est lu par quasiment personne en Iran. Hein. Donc, effectivement, c'est très politique en Iran, malheureusement. Il y a une sorte de marqueur idéologique. Si vous êtes un radical, vous allez forcément, on ne pouvait pas renier la fatwa de Khomeini. Donc vous allez facilement féliciter en gros de l'assassin, l'attaquant, et également, mais ça ne veut pas dire non plus que l'État iranien est impliqué. Vous voyez, c'est plus une lutte politique interne en Iran.
Oui, mais tout de même, il y a quand même un journal d'État qui, sans féliciter l'agresseur présumé, va quand même jusqu'à dire voilà que le coup du diable a été frappé. C'est tout de même une formulation qui peut interroger, intriguer.
Oui, non, mais ce que je vous rappelle, c'est une déclaration, si vous voulez. On va dire, cette personne-là, je ne sais rien, mais c'est peut-être un sympathisant. Donc, effectivement, il salue l'acte. C'est ça l'ambiguïté, quelque part. Mmh. C'est que, par exemple, il y a une récompense, je crois qu'elle existe toujours, et qui a été mise en place par une fondation. Donc, ce n'est pas vraiment l'État iranien, mais c'est les parties les plus radicales pour l'assassinat. Je crois que cette récompense, elle a existé pendant longtemps. Donc, si vous voulez, il joue un peu sur l'ambiguïté. Il félicite. Quelque part, voilà, ils se réjouissent de cet acte. D'un autre côté, je répète, c'est important parce que l'État iranien, il est brutal, tout ce que vous voulez, mais il est rationnel. Il faut toujours revenir à la rationalité. Je ne vois pas l'intérêt que l'État iranien aurait d'accompagner, d'être derrière cet acte au moment où ils sont sur des négociations très importantes pour eux sur le nucléaire avec les États-Unis.
Oui, on comprend bien que l'Iran n'a pas vraiment intérêt à attiser les tensions alors que des négociations se poursuivent donc sur le dossier du nucléaire. Merci beaucoup Thierry Coville, spécialiste de l'Iran. On vous doit notamment l'Iran, une puissance en mouvement aux éditions Erol. À l'étranger toujours, on en sait plus sur la perquisition de Mar-a-Lago, la luxueuse résidence de Donald Trump en Floride, visitée par le FBI en début de semaine. L'ex-président américain soupçonné d'avoir violé une loi sur l'espionnage, et dans la trentaine de cartons saisis, plusieurs dossiers classés top secret. L'un nous interpelle tout particulièrement. Sur la page de garde, la mention « Président de la France ». Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
On n'en sait pas plus sur le contenu pour le moment, mais on peut déjà rappeler qu'entre Emmanuel Macron et Donald Trump, après un début de relation cordiale, les rapports se sont vite détériorés.
Ah oui, vite, les poignées de main viriles se sont espacées. Trump évoquait son ami Macron, un nice guy, un type sympa, le meilleur des Européens, mais l'amitié affichée n'était que de façade. Il y a bien eu l'invitation de Trump par Macron sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2017, et puis une visite d'État de Macron à Washington en avril 2018. Et c'est bien là que le président français comprend que le fossé ne sera pas comblé. D'abord sur le réchauffement climatique, échec pour convaincre Trump de re-signer l'accord de Paris sur le climat. Ensuite et surtout le dossier iranien, vous en parliez avec votre invité Antoine. Les Américains se sont retirés de l'accord de Vienne. À l'été 2019, Emmanuel Macron propose sa médiation entre Washington et Téhéran. Trump se lâche sur Twitter. personne ne parle au nom des USA, à part les USA eux-mêmes. Et en privé, la colère est encore plus violente. John Bolton, l'ancien conseiller de Trump, raconte dans son livre que le président américain se serait emporté dans le bureau ovale. Tout ce que Macron touche devient de la merde. Depuis, les attaques verbales charmant. Se multiplient. Et oui, c'est charmant. Ça a toujours été charmant avec l'ancien président américain. Et puis, vous savez, le chêne qui a été planté par les deux hommes dans les jardins de la Maison Blanche, c'était en avril 2018. Donc, eh bien, ce chêne est mort.
Bon, voilà, comme ça, c'est plus clair. Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Merci à vous. RTL, il est midi 46. Le football, la deuxième journée de Ligue 1. Le PSG accueille Montpellier ce soir sur la pelouse. Kylian Mbappé de retour après des douleurs aux adducteurs. Et sur le banc, Christophe Galtier, sa grande première devant le public parisien, Baptiste Durieux.
Le Parc des Princes, pour Christophe Galtier, c'est d'abord un lieu, une histoire. Le technicien français était très ému lors de sa présentation au moment d'évoquer l'enceinte du PSG.
Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici au Parc. Le Parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle « Ici, c'est Paris ». Et quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite les attentes qu'il peut y avoir.
Et de l'attente, il y en a aussi pour Christophe Galtier qui, pour la première fois ce soir, foulera la pelouse du Parc des Princes avec le costume d'entraîneur du PSG.
Je pense que il va y avoir de l'émotion. Ça va être plein, c'est le premier match de la saison. À 55 ans, je vais être sur le bon côté, c'est-à-dire à droite, sur le bon banc. Je suis très heureux d'être là. Je pense qu'on aura un accueil chaleureux.
Christophe Galtier à la conquête et même la reconquête d'un Parc des Princes où grève des supporters et sifflets était endémique la saison dernière.
Baptiste Durieux du service des sports de RTL, PSG Montpellier, coup d'envoi 21h à suivre dans RTL Foot. Eric Silvestro qui vous attend dès 20h. L'autre rencontre du jour en Ligue 1, c'est Monaco-Rennes à 17h. On suivra le match dans RTL Soir. Et on termine avec ce curieux bateau qui vient d'accoster à Marseille, le Plastique Odyssée, un navire qui veut sensibiliser sur la pollution des océans. Le bateau va rester dans la cité phocéenne pendant plus d'un mois avant de se lancer dans un tour du monde. Gabriel Baldi, vous avez pu le visiter pour RTL.
Sur le port de Marseille, un navire blanc et bleu de 40 mètres de long attire l'attention depuis hier. Le Plastique Odyssée partira donc le 1er octobre pour une expédition autour du monde. Un long projet mûri depuis près de 5 ans par Alexandre Deschelotte, cofondateur de Plastique Odyssée.
L'idée à chaque fois, c'est de rencontrer des entrepreneurs, de faire de la formation au recyclage. Et notre objectif, c'est de déployer des solutions à terre pour réduire et recycler les déchets qu'on a déjà produits et éviter que ces 20 tonnes de plastique qui se déversent aujourd'hui toutes les minutes dans l'océan continuent d'augmenter.
L'objectif est donc de dévoiler des exemples d'innovation de recyclage du plastique à travers une trentaine d'escales autour du globe. À chaque fois, le bateau s'arrêtera sur des villes côtières responsables à plus de 70% de la pollution plastique des océans. Sur le bateau, c'est tout un système de recyclage qui a été pensé notamment par la capitaine Magali Dupuis-Denat pour tenter d'inspirer d'autres entrepreneurs.
On va récupérer les déchets avec notre grue. On va avoir la pyrolyse qui va permettre de recréer du gasoil, de l'essence, pour faire tourner un groupe électrogène qui lui-même fera tourner nos machines de recyclage pour rester en circuit fermé.
Début octobre, le navire partira donc pour Beyrouth, au Liban, pour une première escale, mais pour l'instant et pendant un mois, il ne bougera pas d'un poil ici pour sensibiliser d'abord les Marseillais.
Un reportage signé Gabriel Baldi, correspondant RTL à Marseille. La suite de RTL Midi, c'est notre deuxième invité, un spécialiste des ressources en eau. Nous sommes en pleine sécheresse, l'eau manque, et on l'a prend cette semaine. Même l'eau de pluie est polluée, où que ce soit dans le monde, elle est impropre à la consommation. Je vous dis à dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi avec Antoine Cavallero.
Midi 52, l'invité de RTL Midi, Alexandre Tête, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes expert en gestion des ressources en eau douce, membre de la Fondation pour la recherche stratégique, et vous allez nous éclairer sur ce rapport assez accablant sur Terre. Plus aucune goutte d'eau de pluie n'est bonne à boire, même l'eau de pluie est polluée, même en Antarctique, même au sommet de l'Himalaya. C'est ce qu'on apprend dans une étude de l'université de Stockholm. Comment est-ce possible ?
Vos auditeurs connaissent déjà, par exemple, un phénomène direct de l'activité humaine sur les pluies, c'est ce qu'on appelle les pluies acides. Par exemple, la combustion du charbon provoque dans l'atmosphère des émissions massives de dioxyde de soufre, fois de différents types d'oxyde d'azote. Lorsqu'on va incinérer des déchets, par exemple de matière plastique, on va retrouver de l'acide chlorhydrique qui s'évapore, en fait, qui part dans l'atmosphère. Et donc, en fait, l'eau va être un des facteurs, en fait, de retour sur Terre, avec le dépôt naturel, avec les vents, etc., de retour sur Terre de ces différents polluants. Naturellement, l'eau va se retrouver chargée avec ce qu'on émet dans l'atmosphère. Et finalement, avant d'être un problème d'eau, cette étude révèle l'état de pollution un peu généralisé, là sur un critère, mais on pourrait le dire sur d'autres, de l'atmosphère.
Et à quel point donc c'est dangereux pour nous les humains ?
Alors, très sincèrement, si on regarde l'enjeu de l'eau potable dans le monde, j'ai envie de dire que ce critère est presque accessoire pour des gens pour qui l'eau est une urgence quotidienne. Selon l'ONU, vous avez 800 millions de personnes qui ont aucune eau de qualité améliorée. C'est-à-dire, en fait, une eau, par exemple, quand vous êtes à la campagne, s'assurer que le puits que vous allez forer dans un pays en voie de développement est assez éloigné des zones de pâturage des animaux pour pas que les déjections des animaux viennent polluer l'eau que vous prélevez pour boire et préparer la cuisine. Mais en fait, si on s'intéresse aux normes potables, comme elles sont définies en France, en Europe, aux États-Unis, c'est sans doute plus de 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau potable selon nos normes. Lorsqu'on est chez soi, par exemple en France, on n'a pas le droit déjà d'utiliser les eaux de pluie pour boire. Alors, au-delà de leur pollution propre, il y a toute une série de problèmes liés au recueil des eaux de pluie. C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, sur votre toiture recueillir de l'eau de pluie, eh bien, vous allez avoir des pollutions déposées par les vents sur votre toiture. Et au moment du ruissellement, cette eau de pluie va charrier ces polluants. Donc, il y a un problème déjà au moment du recueil, puis aussi un problème au moment du stockage.
Et selon cette étude de l'Université de Stockholm, cette pollution de l'eau de pluie, elle est irréversible, on ne peut plus faire marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On vit avec une eau de pluie polluée ?
En fait, voilà, à nouveau, dans plein de zones du monde, à cause des pollutions atmosphériques, vous aviez déjà une eau qu'on ne conseillait pas de boire. Maintenant, parfois, l'eau de pluie était moins nocive que l'eau de la rivière qui passe en bas de chez vous. Et je pense notamment au pays de développement, où vous avez sans doute peut-être 4,5 milliards à nouveau de personnes qui rejettent leurs eaux usées dans la nature sans aucun traitement. Donc, vous voyez, dans les grandes métropoles des pays en voie de développement, en fait, c'est un petit peu des... Déjà, toutes les eaux usées ne sont pas recueillies et la plupart ne sont pas traitées. Je pense par exemple au Liban, vous avez qu'une seule centrale d'assainissement qui fonctionne donc au nord du Liban, à Tripoli, pour tout le Liban. Vous voyez, la France a rejeté très longtemps, jusqu'au début des années 90, ces eaux usées, je pense à Marseille, dans la Méditerranée. Donc en fait, on progresse sur ce critère et finalement, par rapport à tout ce qu'on trouve déjà naturellement dans l'eau douce, soit des plusieurs milliers de substances industrielles variées, finalement, ce critère-là, même si c'est spectaculaire, qui est cité dans l'étude, j'ai envie de dire, est une préoccupation secondaire pour les gens pour qui vraiment l'eau est une nécessité quotidienne en quantité et en qualité. Maintenant, ça révèle un état de dégradation de l'environnement qui est constaté finalement par tous les chercheurs qui travaillent sur les questions environnementales, du changement climatique jusqu'à l'eau. C'est-à-dire que voilà, l'état de la nature se dégrade, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les conditions de chaleur, etc. Donc voilà, tout cela se dégrade drastiquement.
Et la pollution qui n'épargne aucune zone de notre planète, pas même
tout
l'Antarctique ou même les hauts plateaux de l'Himalaya. Merci Alexandre Tête.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes expert en gestion des ressources en eau douce, membre de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Dans un instant, c'est l'heure de passer à table. Au menu, un carpaccio de betterave. C'est votre recette du jour. Pierre Herbulot nous attend en cuisine. On le rejoint juste après ça.
Antoine Cavallero, RTL Midi. RTL.
On est sur une recette un peu provençale.
Allez, sel, piment, d'Espelette.
On ajoute de l'huile d'olive.
On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
Les recettes de l'été.
Midi 58 sur RTL, comme tous les samedis, une recette de saison. Pierre Herbulot a enfilé son tablier. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à tous.
La promesse, on commence à la connaître, hein, une recette estivale de grand chef. Garantie facile à refaire à la maison.
Oui, et aujourd'hui, on va se faire un carpaccio végétal avec un légume parfois mal aimé, la betterave.
C'est peu de le dire.
Voilà, si vous avez des doutes, je vous promets que la recette peut vous convaincre. Elle est signée Fanny Ray, une ancienne candidate de Top Chef. Alors, c'était la saison 2. Depuis, elle a fait son trou à Saint-Rémy-de-Provence. Son restaurant y est étoilé au guide Michelin depuis 5 ans.
Et bien, c'est parti pour les Bouches-du-Rhône.
Bonjour Fanny Ray.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Alors, par quoi on commence ?
Alors, on va commencer
par mariner notre betterave. Donc,
il faut le préparer en avance, ça. Hein. Ouais.
Voilà, on va préparer 24 heures avant pour pouvoir cuire, pour pouvoir ramollir et lui donner beaucoup de souplesse à cette jolie betterave.
Très bien.
Alors, je passe à la mandoline, une fois lavée et épluchée, bien sûr. Donc, je vais assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, mes jolies tranches de betterave. Je mets un petit peu de piment d'Espelette.
Alors, un peu de piment d'Espelette, allez-y, ouais.
Un petit peu de moulin à poivre, quelques zestes de citron, un petit peu de jus de citron, un filet d'huile d'olive et on laisse mariner comme ça pendant 24 heures. Alors moi je mets un petit film alimentaire au contact sur une plaque et je laisse au frais.
Alors comme on est très organisé chef, on en a d'avance. Alors à quoi ça ressemble?
Alors on se retrouve avec une de jolies dentelles de betterave.
Elle brille, c'est splendide avec l'huile d'olive par-dessus.
Pour accompagner ces jolies betteraves, on va préparer une vinaigrette. Alors, je vous explique. On va commencer à faire de jolis petits cubes avec une échalote.
On la cisèle, hein, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Ou pas?
Si, si, c'est ça, tout à fait. On cisèle l'échalote très finement. Ensuite, on va émincer la mépita.
Donc, cette herbe aromatique qui est une cousine de la menthe, on va dire?
Tout à fait. Donc, moi, je coupe cette petite mépita. Mais vous pouvez utiliser de la menthe fraîche.
Et là, je sens, c'est hyper parfumé. Il y a même, ça sent la menthe, mais en plus frais, j'allais dire.
Et ça va apporter vraiment beaucoup de dynamique à ce joli carpaccio de betterave. On va rajouter un petit peu de vinaigre noir. On va additionner ces échalotes, la mépita. Et avec toutes mes parures de betterave, pour ne pas les gaspiller, je les ai centrifugées, je les ai fait réduire pour qu'elles soient aussi sirupeuses que le vinaigre balsamique. On peut trouver du jus de betterave dans le commerce, bien sûr. Il faut juste le faire réduire pour avoir cette consistance sirupeuse.
D'accord, très bien.
Une fois que tout est additionné, oui, on rajoute un filet d'huile d'olive, un tour de moulin à poivre, un petit peu de piment d'Espelette.
Toujours.
On mélange le tout. Et là, on voit cette jolie liaison avec cette brillance de l'huile d'olive qui fait... Et ça sent bon la Provence. Alors maintenant, nous allons procéder au dressage. Donc, on a notre petit carpaccio, notre vinaigrette. On va rajouter un petit peu de mépita.
Ah oui, on va en remettre aussi comme ça.
Voilà, pour la fraîcheur. Donc, si vous travaillez avec une botte de menthe, conservez les petites têtes de menthe pour la fraîcheur.
On va goûter ça ensemble?
On va goûter ça.
C'est super bon.
On a la résistance, tu vois, juste ce qu'il faut. Beaucoup de fraîcheur et l'énergie, tu vois, l'énergie de cette vinaigrette qui va apporter du twist à cette betterave.
Et on a cette fraîcheur aussi de la mépita.
C'est une autre façon de voir cette terrible betterave.
Qui fait peur à beaucoup de gens. Le côté terreux, on l'a pas du tout en fait là. Hein.
Pas du tout.
Merci beaucoup Fanny Ray.
Merci à vous.
Bon, c'est vrai que dit comme ça, je dois l'avouer, la betterave ferait presque envie. Pierre, votre conseil?
Alors, on va s'intéresser à ce qu'on appelle dans la cuisine la réduction. C'est ce que fait la chef avec le jus de betterave. C'est tout simplement le fait de mettre un liquide, un jus, une sauce, un bouillon sur le feu à ébullition. La vapeur qui s'échappe, c'est de l'eau. La quantité de liquide va réduire. Les goûts, eux, vont se concentrer. C'est vraiment la base d'une sauce. Faites le test à la maison avec un bouillon de légumes. Il suffit de faire infuser dans 2 litres d'eau des carottes, un poireau, de l'ail, un oignon, du thym, du laurier. Vous filtrez une fois que ça a bien infusé pendant 2 heures pour ne garder que le liquide. Et là, vous faites réduire jusqu'à ne garder que 10 petits centilitres de liquide au fond de la casserole. Vous allez voir la claque aromatique que vous allez prendre avec cette réduction.
La claque aromatique, elle est signée Pierre Herbulot, notre journaliste roi des marmites. La recette, elle est sur le site RTL.fr, sur l'application. Vous avez même les photos sur les réseaux sociaux. RTL, il est 13h passé de 1-2 minutes. Et voici les grands titres de l'actualité. Vous êtes très nombreux sur les routes, rouges dans les deux sens et même noirs sur l'arc méditerranéen. Ce sont les prévisions de Bison Futé. Pierre Collat, vous êtes toujours avec nous. Vous aidez nos auditeurs à éviter les embouteillages. On a compté jusqu'à 910 km de bouchons cumulés.
Et oui, et en ce moment, dans la vallée du Rhône, il faut compter 4 heures pour relier Lyon et Orange. 2 heures de plus qu'en temps normal. Si vous nous écoutez sur l'axe Paris-Bordeaux sur l'autoroute A10, vous perdez 35 minutes à cause d'un accident. accident après la sortie 28 Futuroscope. Trois véhicules impliqués sur voie de gauche, le dépanneur est sur place. Il est conseillé de contourner la difficulté en sortant à l'échangeur 28. Le trafic est très chargé. Dans le sud-ouest, entre Toulouse et la Méditerranée, ça bloque à hauteur de Villefranche, de Lauragais et Carcassonne. Il y a du monde et des travaux. Vous mettez actuellement 2h35 au lieu d'1h10 pour relier Toulouse et Narbonne sur cette A61. Et puis dans l'Hérault, gros bouchon à hauteur de Clermont-l'Hérault sur l'A75. Si vous remontez vers le nord, vous perdez presque une heure pour rejoindre l'Audève.
Merci Pierre. Début d'accalmie en Gironde, la progression des flammes est limitée. Elles ont dévoré plus de 7000 hectares depuis mardi, depuis la reprise du feu dans le secteur de Landiras. Mais les pompiers restent sur le qui-vive. Ils sont plus d'un millier toujours mobilisés. On attend de la pluie, des orages dès ce soir dans la région. Salman Rushdie, toujours entre la vie et la mort, l'écrivain poignardé à multiples reprises hier dans l'état de New York. Il a été placé sous respirateur artificiel. Les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est ce que dit son agent. Selon lui, l'écrivain britannique risque de perdre un œil. Les nerfs de son bras ont été sectionnés. Son foie a été touché par les coups de couteau. L'agresseur présumé a été arrêté. Le football, très vite, la deuxième journée de Ligue 1. À 17h, Monaco reçoit Rennes. Et puis à 21h, PSG Montpellier, à suivre dans RTL Foot. Eric Silvestro vous attend dès 20h. RTL, il est 13h04. RTL Midi, c'est fini. Le retour de l'actualité, c'est à 14h avec Nathan Bocard. Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, les Voix du Crime.